Chapitre 68. Les Alpes, violentes, puissantes, dressées là comme pour décourager toute velléité de les franchir. Charcot devinait au loin le bleu turquoise des glaciers, la colère des roches et les arêtes blanches des crêtes qui se chevauchaient jusqu'au toit de l'Europe. Il s'aventurait sur un territoire où le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse qu'ailleurs. La férocité de Paris et l'enfer des meurtres lui parurent à des années-lumière de là. Le jeune inspecteur ne s'était arrêté qu'une fois sur une aire d'autoroute au niveau de Mâcon pour faire un tour aux toilettes et avaler un sandwich. La veille, il n'avait pas beaucoup dormi, miné par ses découvertes concernant l'affaire des disparus. Par la décision qu'il allait devoir prendre, serait-il capable de mettre derrière les barreaux, jusqu'à la fin de ses jours, l'homme qui lui avait sauvé la vie? Enfin, il arriva à destination. L'hôtel d'abord. Il dénicha un 3 étoiles agréable dont les 2/3 des chambres étaient inoccupées. Il dépassait le budget alloué par son service, mais il accepta d'ajouter la différence. Après tout, il y fêterait son nouvel an, et la vue saisissante le valait bien. Il posa sa valise sur le lit et mit le sauterne ainsi que le foie gras dans le petit réfrigérateur faisant office de minibar. Il était environ 14h quand il sonna à l'interphone de la principale. Magali Forestier portait un tablier taché de farine autour de la taille. Après de brèves salutations, elle lui proposa de la suivre jusque dans la cour de l'établissement qui, intégralement blanche, scintillait au soleil. Franck marchait le long du préau lorsqu'il repéra les montagnes en arrière-plan. Il leva la photo de classe qu'il tenait à la main. Aucun doute, l'instant avait été immortalisé à cet endroit. C'était déjà en soi une bonne chose. Forestier baissa le gros interrupteur du circuit électrique et invita son visiteur à descendre dans un sous-sol éclairé par des lampes à néon. Après un couloir, ils bifurquèrent dans une pièce glaciale où s'entassaient des cartons de paperasse. « Voilà, » fit la principale. « Comme je l'ai expliqué à votre collègue, j'ai hérité des archives dans cet état et je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu le temps de songer à les trier. J'espère que vous trouverez ce pourquoi vous avez fait toute cette route. » Après lui avoir donné quelques consignes à appliquer une fois ses fouilles terminées, elle lui tendit le trousseau de clés et s'en alla. Franck observa les murs noirs, la lumière des tubes fluorescents qui grésillaient, et poussa un soupir. Il n'y avait même pas de chaise ni de table, et l'éclat aveuglant du paysage lui paraissait déjà loin. Heureusement, les années étaient inscrites sur la plupart des cartons. Il commença par rassembler ceux qui couraient de 1972 à 1976, ce qui devait correspondre à peu près à la période où Hélène Lemaire avait fréquenté l'établissement. Il ouvrit le premier et, assis sur un autre, en sortit des pochettes cartonnées qui portaient chacune le nom d'une classe, 4 par niveau. Ça en faisait donc 16. Sa déception fut grande quand il constata que leur contenu se résumait à un simple empilement de fiches administratives et de relevés de notes. Pas même des photos d'identité, uniquement des patronymes, des dates de naissance et des adresses sur des feuilles jaunies par le temps. Il ne se laissa pas abattre pour autant et partit à la recherche de la seule information dont il disposait, Hélène Lemaire. Pour ce faire, il se devait d'être méthodique. Ainsi, puisqu'il était difficile d'estimer l'âge de la jeune fille sur le cliché qui figurait dans le cahier de David Merlin, Franck commença par le début. Les 6e eurent alors toute son attention. Tandis qu'il épluchait les dossiers et que les adolescents anonymes défilaient devant ses yeux fatigués, Charcot sentait que son esprit divaguait. Sa conscience s'envolait comme un papillon. Il voyait Serge démolir le visage de son demi-frère, lui casser les os de ses gros poings, frapper jusqu'à manquer de souffle, le balancer à la flotte, en faire un handicapé à vie. Ces images lui étaient insupportables. Il enchaîna 2 cartons sans succès, puis soudain, son regard accrocha ce qu'il était venu chercher à 600 kilomètres de chez lui. Année 1972, Hélène Lemaire, née en octobre 1961 à Sallanches, avait été en 6e B. L'inspecteur reprit une à une les fiches des élèves de cette classe. Avec un peu de chance, il tomberait sur 2 noms identiques. Car si David Merlin avait effectivement été scolarisé dans ce collège et qu'il avait une sœur ou un frère jumeau, il était probable qu'ils aient été ensemble en cours. Du moins l'espérait-il. Mais il ne trouva rien. Il mit plus d'une heure à reconstituer le parcours d'Hélène. 5e D, 4e C, puis 3e C. Il écrivit ces informations dans son carnet. Il s'intéressa ensuite de nouveau à ceux qui avaient été ses camarades. Son cœur s'emballa quand il découvrit le même nom sur 2 feuilles successives pour la 4e C. On était en 1974. David Lescure, né le 4 août 1960 à Brest. Julie Lescure, née le 4 août 1960 à Brest. Des jumeaux. Charcot sentit un immense apaisement l'envahir. Il les tenait. Cette fois-ci, plus de pseudonymes ni de grimages. Des identités brutes, perdues dans des sous-sols oubliés. Il compulsa les renseignements administratifs ainsi que les bulletins de chacun. De trimestre en trimestre, les appréciations de Julie s'étaient dégradées, jusqu'à devenir catastrophiques. Résultat en chute libre, Julie ne travaille plus. Avertissement pour mauvais comportement, indiquaient les appréciations des professeurs. Les notes de David avaient suivi la même courbe descendante, mais en moins violent. Franck s'empressa de relever l'adresse des parents. À l'époque, il vivait à Passy, un bled encore plus paumé dans la montagne, dont il avait vu le nom sur un panneau. Il prit son temps pour chercher la trace des jumeaux dans les autres classes d'Hélène. En vain. D'ailleurs, il ne retrouva leur présence que l'année de leur cinquième. David et Julie Lescure étaient donc arrivés dans cet établissement sur le tard, peut-être après leur déménagement de Bretagne, et l'avaient selon toute vraisemblance déserté avant la fin du cycle. Pour quelle raison les deux adolescents n'avaient-ils pas fait leur troisième dans ce collège? L'inspecteur remit les cartons en place, éteignit les lumières et quitta les lieux en prenant soin de verrouiller les issues, satisfait. Il n'était pas venu pour rien. David Merlin était David Lescure, et Julie, sa jumelle qu'il avait appelée de la cabine téléphonique, celle qui menaçait de prévenir la police si son frère continuait son massacre. Le soleil avait déjà disparu derrière les crêtes lorsqu'il rendit les clés à la principale. Il profita de cette entrevue pour lui montrer l'adresse des parents. Il comptait y faire un saut pour vérifier s'ils y habitaient encore. Elle lui expliqua que Passy se situait à 10 minutes de là, qu'il fallait longer le lac et attaquer les pentes par la D13. Ensuite, un plan détaillé le renseignerait du côté de la mairie. Dans l'habitacle de sa Renault, Franck lorgna sa montre. Bientôt 17 heures. Il allait d'abord jeter un œil là-bas, puis il passerait un coup de fil à Santucci pour l'informer de ses découvertes. Les jours de liberté de David Lescure et de sa sœur, si elle était impliquée dans quoi que ce soit, étaient comptés.